donc, en fait, on va continuer. Là, c'est la partie 2 de « Mettons les lunettes qui voient Dieu ». Donc, les lunettes pour bien comprendre la parole, les lunettes aussi pour voir les situations de nos vies comme Dieu les voit. On va commencer par relire le texte qu'on a lu il y a 2 semaines. Et c'est cette parole de Jésus qui nous enseigne sur les inquiétudes et pourquoi, finalement, on doit ne pas s'inquiéter. C'est Jésus qui nous dit, c'est pourquoi. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillez votre corps. La vie n'était pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. C'est un bon moment pour lire ça, hein, parce que c'est le printemps. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Donc, on avait parlé l'autre fois, oui, on a besoin de lunettes pour bien comprendre la parole de Dieu. Ça, c'est des lunettes pour regarder le soleil. Et la parole de Dieu, c'est un peu comme le soleil. Il faut filtrer les interférences et les rayons nocifs et voir ce que Dieu veut qu'on voit. Et ça, ça va nous aider dans notre vie. On a vu aussi qu'on peut résumer le message de cet enseignement ainsi que préférer par-dessus tout ma relation avec Dieu, préférer par-dessus tout ma relation avec Dieu et découvrir et faire sa volonté dans le moment présent, voilà ce que Dieu veut pour moi. OK? Donc, préférer ma relation avec lui par rapport à toute chose, et apprendre à découvrir sa volonté pour moi. C'est ça que lui veut. C'est ça qu'il aime. C'est ça qui va nous rendre heureux aussi, parce qu'il va s'occuper du reste. On peut lui remettre tous nos soucis. On avait vu qui Dieu est vraiment. Dans ce passage, on voit que Dieu aime tout ses créatures et les nourrit, mais particulièrement les humains et encore plus particulièrement ses enfants. Alors, voilà pourquoi il dit à ceux qu'il a sauvés, c'est-à-dire toi, moi, tous ceux qu'il a non seulement sauvés, mais embauchés pour être ses témoins, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Se soucie de vous, s'occupe de vous. Donc, l'idée, c'est Dieu connaît tes problèmes et tes besoins. Et il connaît tes vrais besoins mieux que toi et il s'occupe de toi. Il veut libérer ton esprit pour que toi, tu cherches sa volonté. Euh, nous savons le secret, Dieu connaît déjà tout ce dont nous avons besoin. Maintenant, on va continuer, ça c'était juste la révision, on va continuer avec la suite. Dans cet enseignement de Jésus sur les inquiétudes, nous apprenons ce que Dieu désire de moi. Et on avait déjà dit il y a deux semaines que Jésus s'attriste du fait que, oui, on a la foi, ça il est content qu'on a la foi, mais il s'attriste des fois que notre foi est tellement petite. Alors, j'ai dit aussi, la foi petite que tu as, donne-la lui, il va l'utiliser, mais il veut qu'elle grandisse. Quand je vois Jésus avec ses disciples dans l'Évangile, et on peut tous voir, en fait, qu'il était parfois surpris, puis pas surpris par leur manque de foi. Il avait une foi trop petite par rapport à ce qu'elle peut être. Alors, il n'était pas surpris, d'un côté, parce que lui-même, il a vécu la tentation de la peur. Il était humain. Il est devenu pleinement humain et il a su qu'est-ce que c'était que nous, on vit quand on est dans des situations de problèmes. Il n'était pas surpris qu'on soit faible à ce niveau-là. Mais en même temps, lui, il était capable de discerner le péché de l'obéissance et il a vraiment obéi à Dieu dans toutes les situations. Et comme il était humain, il se dit, mes disciples, ils sont capables vraiment de progresser dans la foi. Je l'ai vécu moi-même. Et donc, il était surpris à quel point des fois, il leur avait enseigné, le Seigneur l'avait enseigné, et ils oubliaient, ils retombaient dans la peur. On pense à l'épisode dans le bateau sur le lac. Jésus est avec eux, et il fait une sieste, lui. Et les disciples sont en train de manier le bateau. Et tout d'un coup, une tempête arrive, et les disciples venaient de voir Dieu à l'œuvre, des gens être guéri et plein d'autres choses. Puis là, il y a une tempête et Jésus se fait réveiller par eux. Maître, on va mourir! C'est même pas fais quelque chose, c'est on va mourir! Tu pourrais au moins te réveiller pour mourir avec nous? Et Jésus n'a pas réagi du tout comme eux. Ni quand même, je pense à un autre cas un petit peu semblable, Jonas, qui lui aussi est dans une tempête et dans un bateau. Mais lui, c'est un peu différent. Il s'est éloigné de Dieu. Il a fui la volonté de Dieu. Et lui c'est quasiment, je vais mourir, puis tant mieux, parce que c'est sûr que Dieu m'a déjà condamné pour ma désobéissance. Alors, je vais juste rester dans la cale du bateau puis me laisser noyer. Jésus est ni comme les disciples, ni comme Jonas. Il se réveille de sa sieste et il dit à ses disciples affolés, « Les gars, exerçons notre foi. Il me semble, je vous ai déjà montré. Il me semble, vous l'avez déjà fait. Pourquoi vous oubliez? Exerçons notre foi et voyons comment Dieu va nous sortir d'affaire. » Et puis Jésus dit à la mer de se calmer et la tempête aussi et Dieu les sauve d'affaire. Dieu veut que notre foi grandisse. Il veut aussi, et on l'a vu dans Philippiens, il veut qu'on transforme nos inquiétudes en sujets de prière. Philippiens 4, 6, on a vu ça au mois passé, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des remerciements. » Est-ce que vous vous souvenez? Tu prends ton inquiétude, celle que tu es comme, « Qu'est-ce que je vais faire? » Et je comprends ça et je le dis souvent moi-même. « Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? » Et le Saint-Esprit peut t'aider à transformer cette prière-là, qui n'est pas vraiment une prière, dans celle-ci. Papa, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire pour me tirer d'affaire, pour transformer ou utiliser ce problème. Quand Jésus dit « Remettez tous vos soucis au Père », c'est vraiment tous vos soucis. Et ça, je l'ai peut-être dit il y a deux semaines. Quand il y a un commandement dans la Bible avec une liste, souvent, d'habitude, la liste, elle n'est pas complète. Jésus a dit « Ne vous inquiétez pas pour la nourriture, la boisson et le vêtement. » C'est tout. Pour le reste, inquiétez-vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, la liste, c'est juste des exemples. Toutes vos inquiétudes, tous vos besoins, pas juste nourriture, boisson, vêtements, quoique ce sont des choses vraiment importantes, mais aussi le logement, mais aussi payer le loyer, mais aussi payer les taxes, trouver une garderie, trouver un médecin, je peux continuer longtemps. On a des parents qui vieillissent, qu'est-ce qu'on va faire? Ça coûte cher. Père, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire. Merci d'avance. Moi aussi, je suis en train d'apprendre avec vous à ne pas m'inquiéter. Il y avait un chanteur chrétien très populaire quand j'étais un jeune adulte, dans les années 70. C'était un chanteur, bon, Keith Green, c'est son nom, et vous pouvez trouver ses chants. C'est en anglais qu'il chante. Certains de ses chants ont été traduits en français, mais lui était intéressant parce qu'il a vraiment fait un effort de mettre en pratique qu'est-ce qu'il chantait, et il a fondé une mission. Et il est mort dans un accident d'avion, ou d'hélicoptère, je ne me souviens pas trop. Il amenait des vivres dans un endroit pauvre et l'avion est tombé. Il est mort. Mais il avait chanté une fois cette chanson, « Jesus is Lord of all. No sin is too big. No problem too small. Jesus is Lord of all. » Et en français, c'est « Jésus est Seigneur de tout. » Aucun péché n'est trop grand. C'est merveilleux. Aucun péché n'est trop grand pour Jésus. Aucun problème n'est trop petit. Jésus est Seigneur de tout. Ça veut dire, viens à lui. Tu as commis un crime. Tu as commis un péché. Aucun péché n'est trop grand. Aucun problème que tu as n'est trop petit. Viens à Jésus et transforme ton inquiétude en remerciement. Une autre chose que je voudrais dire, c'est que Jésus, dans ce sermon, en fait, c'est le sermon sur la montagne, ça vaut la peine de le relire à la maison, Matthieu chapitre 5, 6 et 7, plein d'enseignements de Jésus sur comment marcher avec Dieu. C'est merveilleux. Et une chose qu'il dit juste un peu avant, cet enseignement-ci sur les inquiétudes, c'est que par rapport à nos problèmes, Dieu a un regard simple. Et il veut que nous aussi, on ait un regard simple sur nos problèmes et sur nos vies. Jésus dit, vous ne pouvez pas avoir deux maîtres. Il veut que toi, que tu aies une seule source de sécurité dans ta vie, c'est Dieu. Une seule source de sécurité, une seule source d'identité, enfant de Dieu. Et pas deux maîtres, pas cinq maîtres, quand je dis des maîtres, je veux dire des seigneurs, des boss, des sources de sécurité, des sources d'identité. Si tu en as plus qu'un, le problème, c'est que de la manière que tu vas regarder les situations, tu vas être distrait, tu vas regarder dans deux directions différentes et ton action de foi va être faible ou peut-être mauvaise. Et donc, Dieu veut que tu simplifies ton regard. Il veut que tu te rendes compte, voilà, il faut que je renonce à mes fausses sources de sécurité et que mon identité est seulement en Dieu. Et comme ça, c'est comme ça qu'on peut vraiment prier et faire face à nos difficultés en remettant à Dieu nos inquiétudes et lui va les prendre. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, que le verset le plus important, quand on lit bien cet enseignement, c'est le verset 33 qu'on a chanté tantôt. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. C'est-à-dire, tous les domaines où on s'inquiète, nourriture, vêtements, trouver un conjoint peut-être. Il y en a beaucoup des inquiétudes et peut-être que tu es venu ce matin avec le cœur lourd à cause de ton problème. Recherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela vous sera donné en plus. Je vais expliquer cette deuxième partie. Mais d'abord, on peut simplifier la première partie. Comment est-ce qu'on pourrait résumer « Rechercher le royaume et la justice de Dieu » ? Chercher la volonté de Dieu serait peut-être une manière plus simple de le dire. Donc, chercher d'abord la volonté de Dieu dans ta situation et Dieu va s'occuper du reste. Le règne, la justice, ça peut être résumé avec le mot « volonté de Dieu ». Dieu a une volonté, il nous l'a dit, il nous l'a expliqué dans sa parole, mais aussi son Saint-Esprit en nous nous aide à discerner plus spécifiquement dans les situations. C'est quoi sa volonté? Cherchez d'abord la volonté de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Ô Père, je comprends que de découvrir ta volonté et la faire dans le moment présent, voilà ce que tu veux de moi. Et j'ai confiance que tu vas t'occuper de tout le reste. Je voudrais passer maintenant à un autre aspect, c'est les bienfaits que Dieu veut m'apporter. Jésus en parle ici et on le voit ailleurs dans toute la Bible. J'aimerais dire, OK, toi, tu as un problème immédiat. Jésus, quand même, ne te promet pas une réponse immédiate à ton inquiétude ou à ta demande. Il y a une promesse, oui, mais ce n'est pas nécessairement réponse immédiate. Ce n'est pas comme Google ou GPT, oui, que tu as la réponse en dedans de une seconde. Non, Dieu, il a son temps à lui. Il ne dit pas, il n'y aura pas d'attente. Pas de souffrance, non, il ne dit pas ça. On a vu, et vous savez, que Dieu utilise les difficultés dans ta vie pour quelque chose de plus important, que tu grandisses en lui. Amen? Oui, c'est vrai, hein? Et je sais que vous savez, et je sais que vous le vivez. Jésus n'a pas promis. Pas de souffrance, pas d'attente. Mais il nous assure une chose. Dieu sait de quoi tu as besoin. Il connaît ta souffrance. Et si tu pleures, Dieu pleure avec toi. J'ai entendu une histoire. Un papa, sa femme était à l'hôpital, et il priait pour elle et son petit bébé a eu la varicelle. Et couvert de boutons, le bébé souffrait et le papa était vraiment désemparé. C'était un homme de prière. Et il priait pour sa femme, la guérison de sa femme, qui était très malade, mais aussi il priait pour le petit bébé qui pleurait dans ses bras. Et c'est comme, lui pleurait avec le bébé. Et lui savait, je sais que cette varicelle va passer, puis que le bébé va garder des enfers pour toi, sauf te tenir dans mes bras, pleurer avec toi. Et ce que ce papa a dit, c'est que plus tard, cet enfant-là qui a grandi, a fait des études en médecine et est devenu un chercheur dans le domaine de la varicelle et de ce enfin, je me souviens plus si c'est une bactérie ou un virus, mais cet enfant devait passer par la souffrance jusqu'au bout. Il fallait pas raccourcir la souffrance. Dieu n'a pas voulu ça, mais a préparé cet enfant par différentes choses, y compris cette maladie qu'il a survécue dans le temps, pour devenir ensuite quelqu'un qui allait aider les autres dans le domaine de la varicelle. Alors, c'est un peu mal expliqué, mais Dieu est souvent comme ça avec toi. Il t'accompagne dans ta souffrance. Il pourrait enlever ta souffrance comme ça, mais ce n'est pas ça qu'il veut. Il pleure avec toi car il connaît tous tes besoins. Mais alors, quels sont les besoins, ou plutôt les richesses que Dieu m'apporte? Si des fois, il me fait attendre avant de répondre à certains besoins. Premièrement, oui, regardons avec les lunettes de la foi. Le bonheur, premièrement, le bonheur de... Je ne sais pas si j'ai des comme ma liste. Non, je vais revenir, pardon. Oui. Je crois que même lorsqu'on souffre et qu'on prie, il y a ce bonheur de se savoir aimé de Dieu. On a célébré ça tantôt. Et revenons toujours à cette réalité. Dieu m'a tant aimé. Dieu m'a tant aimé qu'il a envoyé Christ pour moi. Et si c'était juste pour moi, il l'aurait fait juste pour moi. Oui. Oui, l'ombre. Merci. Alors, tu es en train de porter les lunettes de la foi. Merci. Le bonheur de se savoir aimé, le privilège de collaborer avec Dieu, la joie de découvrir, d'apprendre à faire sa volonté et à la pratiquer, mais dans la grâce et le pardon, parce qu'on progresse en nous améliorant. D'avoir l'Esprit de Dieu en nous qui nous encourage et nous transmet les paroles de Dieu, même pour des situations précises que nous vivons. On a aussi l'anticipation de notre héritage céleste. Paraît-il, c'est Jésus qui nous l'a dit, il y a de quoi de merveilleux qui nous attend de l'autre bord. Et cet héritage énorme, il est entre les mains de notre Papa céleste et de Jésus. Et on va nous le donner dès qu'on passe de l'autre côté et d'une manière plus pleine encore, avec un corps renouvelé. On va vivre cet héritage dans le royaume éternel. Mais on vit avec cette attente-là dès maintenant. Il faut apprendre à y penser. Et à prendre des décisions maintenant en fonction de cet argent spirituel, cette richesse qui s'en vient bientôt dans notre existence. Et toutes ces richesses que je viens de dire nous aident, nous aussi, à avoir un regard simple et généreux par rapport à notre vie. J'aimerais donner l'exemple de comment on gère notre argent. C'est quelque chose qui intéresse Dieu beaucoup. Et ça s'applique à chacun de nous. Et on a tous des situations financières différentes. Et dans votre vie, vous aurez des situations financières différentes. Mais dans chaque situation, Dieu veut que tu vives avec un regard simple, généreux, des mains ouvertes, des mains libres. Dimanche passé, on a parlé de l'Église des Philippiens avec Mélodie. Et on a vu que l'Église de Philippe, une communauté de plusieurs personnes, ils ont prié, ils ont reçu comme une conviction ensemble de devenir généreux envers le ministère de Paul. C'est parce qu'il leur dit, vous vous souvenez peut-être, dans Philippiens 4, verset 15, « Lorsque j'ai quitté la Macédoine, dit Paul, aucune église n'a pris part avec moi à un échange de contributions. » Ils avaient comme un genre à lui envoyer même. Les Philippiens s'étaient engagés à lui envoyer tant par mois peut-être, ou je ne sais pas quelle était la fréquence. Vous étiez les seuls à le faire, il leur dit. Et à Thessalonique, déjà, qui était la prochaine ville où il est allé, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Donc, ils ont cherché la volonté de Dieu et ils ont décidé de regarder le besoin de Paul avec ce regard simple, généreux. Ils ont mis de côté la crainte, ils ont agi dans la foi. Donc ça, c'est quand même puissant quand on parle d'un groupe de personnes qui agissent généreusement ensemble. Mais même individuellement, quand on est pauvre, très pauvre, on peut agir. Tout ce qu'il faut, c'est être à l'écoute de Jésus et il va nous montrer. On peut penser à cette veuve que Jésus a vue dans le temple. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire, Marc 12, à partir du verset 41? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait en train de regarder la boîte noire qui était à l'entrée du temple. Et il a vu des gens mettre beaucoup d'argent dedans et une veuve. Est-ce que Jésus espionnait? Bon, c'est le Fils de Dieu, on va dire qu'il avait le droit. Mais bon, et il a vu non seulement qu'elle mettait, mais il a eu une idée de combien qu'elle a mis dans la boîte, dans le tronc. Et c'était vraiment pas beaucoup selon les critères humains. C'était quelques sous. Mais il a compris qu'elle agissait avec une grande générosité et même un esprit de sacrifice. Elle avait un regard simple face au commandement de Dieu d'aider le temple, parce que c'était ça l'œuvre de Dieu dans l'Ancienne Alliance, c'était payer des taxes ou des dîmes pour entretenir le temple. Elle a obéi. Et Jésus dit, mais elle a pris de son nécessaire. Pour faire ça, il fallait avoir une conviction et de la foi. Et Jésus ne la critique pas. Au contraire, il la met en exemple pour nous. J'ai un troisième exemple par rapport à des gens d'aujourd'hui. Alors ça, je l'ai entendu sur l'Internet. C'est un couple chrétien en Californie qui... C'est un site web, en fait. C'est en anglais. Mais ça s'appelle generousgiving.com. Et il y a plein d'exemples. C'est des chrétiens qui ont monté ce site. Plein d'exemples de gens qui font des choses créatives et surprenantes dans leur générosité. Alors, ce couple, voici leur histoire. Je résume. Ils habitent en Californie. Le mari avait un bon emploi dans une bonne compagnie. Il possédait des actions de la compagnie. Donc, ils appellent ça des stock options, des parts dans la compagnie. Au début, quand c'est une compagnie privée, je ne suis pas du tout un spécialiste, désolé, mais la manière que je comprends ça, peut-être que tes parts augmentent en valeur, mais tu ne le sais pas parce que c'est comme si tout dans la compagnie. Mais à un moment donné, la compagnie est devenue publique. Et là, ça veut dire que tu peux vendre tes parts. Et tout d'un coup, ils ont découvert qu'ils étaient très, très riches. Ces stocks, ces parts, valaient énormément d'argent. Et donc, il était riche. J'imagine qu'il a vendu ses parts. Et ils se sont mis à prier en tant que couple. Et ils ont senti que Jésus leur disait, par le Saint-Esprit, « Gardez votre vieille voiture. » Donc, il est arrivé au travail ce jour-là, dans la même voiture qu'il avait avant, et ses collègues qui s'étaient aussi enrichis, ils étaient dans leur Ferrari, dans leur Mercedes, et lui arrive avec sa vieille minoune. Mais bon, je reviens à ce qui est plus important. Qu'est-ce qu'ils ont senti que Jésus leur disait? Gardez votre vieille voiture, gardez votre maison humble dans le quartier pauvre où vous vivez maintenant. Gardez le même style de vie. Gardez le même budget de dépenses. Alors, quand Jésus nous parle comme ça, c'est comme il nous donne aussi le goût de le faire aussi. Alors, c'est devenu une conviction en eux de faire ça. Jésus leur a dit, ou en tout cas, ils sentaient que Jésus leur disait, « Dans votre quartier, il y a beaucoup de gens qui souffrent et je veux vous utiliser pour les aider. » Et leur maison, à la longue, ils racontent comment leur maison est devenue un lieu d'hospitalité pour les jeunes et même un refuge, à un moment donné, pour une famille qui était en difficulté financière. Et ils expliquent que quand les chrétiens viennent vers eux pour leur demander « Mais c'est quoi votre recette pour vivre cette belle générosité-là? » Eh bien, ils ont répondu « Mais il n'y a pas de recette, il n'y a pas de formule, mais peut-être juste mettez-vous à l'écoute de Jésus. » Donc, dans ta prière, dans ta vie, tu sais, c'est comme « Seigneur, montre-nous, c'est quoi ta volonté? » Et puis, cette chose peut devenir une conviction. Et puis, tu peux agir avec foi. Et parfois, ce sera quelque chose de surprenant, peut-être, pour les autres. Même, peut-être, des fois, insouciant. Peut-être les gens vont penser que vous êtes fous. Mais si ça vient de Jésus, il va donner raison. Et bon, voilà. Je vais arrêter là. On va résumer pour conclure. Préférer par-dessus tout ma relation avec Dieu, découvrir sa volonté et la faire dans la situation présente, transformer mon « Ah, ça va tellement mal que… » Faut que je prenne ma vie en main. Non, transformer ça en Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes de faire? Voilà ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Et il va s'occuper du reste. Alors que Dieu fasse de nous une communauté d'enfants au cœur et aux mains, toujours plus libres et disponibles et généreux. Amen. Prions ensemble. Et j'invite les musiciens à se préparer. Vous pouvez venir tout de suite ou tout de suite après la prière, comme vous voulez. Père, moi, je veux te remercier pour tous tes enseignements sur les inquiétudes, sur la foi, sur la grandeur de ton amour. On peut te prier avec toutes nos inquiétudes. Que ce soit des dossiers informatiques qu'on efface par accident. Et ça peut être aussi un défi financier majeur. Et Père, on prie les uns pour les autres, car nous vivons des temps où tellement d'entre nous ont des défis financiers plus grands que leurs revenus. Père, qu'on puisse prier les uns pour les autres, mais que personne ne perde la foi, Seigneur. Que nous puissions rester attachés à toi et continuer à avoir les mains ouvertes pour penser. Je me demande de garder pour moi-même. Qu'est-ce que tu me demandes de donner? Nous prions. Au nom de Christ. Amen.